Initiation à la théologie, session à Rimont, 4 novembre 1989, Le Christ par le Père Marie-Dominique.
Bon, bonjour à tous. Vous savez que c'est un auditoire extrêmement varié. C'est dangereux d'avoir les frères devant soi, parce qu'on a la tentation de leur parler en premier lieu, et que la session n'est pas premièrement pour eux. Je leur dis ça. La session est pour ceux qui viennent pour cela. Les sœurs, elles sont perdues dedans, alors. C'est plus facile. Oui, parce que je crois qu'il y a des désirs différents. C'est pour ça que c'est pas toujours commode. Donner un aperçu, je dis bien un aperçu, du mystère du Christ. Aujourd'hui, je ne dis pas du tout le souci catéchétique, le souci beaucoup plus contemplatif. Il ne faut pas opposer les deux, mais quand même, c'est distinct, pas la même chose. C'est essayer de comprendre cet effort de théologie qu'on fait, c'est en vue de la contemplation. C'est pour ça. Tout chrétien bien né doit tendre vers la contemplation. Même si au fond, on le dit très peu aujourd'hui, il faut quand même le dire indéfiniment. Jésus dit à ses apôtres, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Être l'ami du Christ, c'est entrer dans ses secrets, c'est donc le contempler. C'est ça le propre de l'amitié. C'est entrer dans les secrets. Ce n'est plus regarder quelqu'un de l'extérieur. Et quand vous conduisez quelqu'un chez un psychologue, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il est, son tempérament, ses réactions. Comment réagit-il en face de telle ou telle circonstance? Ça reste très extérieur, c'est descriptif. Quand vous connaissez quelqu'un amicalement, vous entrez dans les intentions profondes de sa vie. Et petit à petit, vous arrivez à connaître ses secrets. Alors, la théologie dans l'Église, selon la grande tradition des pères, selon le regard de Thomas d'Aquin, qui reste quand même le théologien pour l'Église, à la suite de Saint Jean. Les orientaux, les orthodoxes, regardent Saint Jean comme le théologien. Cet autre théologien, c'est Thomas d'Aquin. Craignez pas, je ne vais pas vous faire un cours sur saint Thomas, article par article. D'abord, on n'a pas le temps, et puis vous aurez beaucoup de peine à comprendre. Vous partirez en disant, c'est pas du tout pour nous. Thomas d'Aquin reste toujours dans le fond. Il forme les théologiens pour qu'ils puissent ensuite essayer de communiquer ce qu'ils ont reçu. Mais pour les grands théologiens, toujours, la théologie est une sagesse. Si la théologie est une sagesse, elle implique un regard contemplatif. Et donc, c'est avant tout et en premier lieu ce regard contemplatif que nous essaierons de comprendre par rapport au mystère du Christ. C'est cela que doit apporter la théologie. Vous avez déjà vu, parce qu'on a fait quelques cours sur la théologie, je ne veux pas reprendre cela, mais c'est mettre notre intelligence au service de la foi, au service de la parole de Dieu. Mettre notre intelligence au service d'un amour divin. On peut aborder ce mystère de Jésus de diverses façons, puisque Dieu a voulu qu'il y ait pour nous les quatre évangiles. C'est significatif. Et dans le langage symbolique de l'Apocalypse, on voit bien que les quatre vivants, cette première vision du ciel qui est tellement belle hein, dans l'Apocalypse, vous savez bien, vous connaissez un tout petit peu quand même l'Apocalypse. Et quand on regarde l'Apocalypse, on voit cette première vision du ciel après la correction des églises, chapitre 4. Lisez ça. Excellent comme introduction pour le mystère du Christ. On ne le fait pas d'habitude, c'est pour ça que je le fais. On voit que la vision du Christ nous est donnée symboliquement par les quatre vivants. Autrement dit, le Christ, c'est le vivant, au sens le plus fort qu'il soit. C'est important pour nous. C'est le vivant qui a vécu au milieu de nous, c'est le vivant qui a connu la mort et qui a été victorieux de la mort et qui maintenant est dans la gloire. Ces quatre vivants nous sont montrés comme ayant ces quatre visages. Je vous lis le passage. Le premier vivant est semblable à un lion. Le deuxième vivant est semblable à un jeune taureau. Le troisième vivant a la face comme d'un homme. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Et les quatre vivants ont chacun d'eux six ailes. Et tout autour et au-dedans, ils sont pleins d'yeux. Et le vivant, la connaissance, on le verra ça. Ils disent Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et chaque fois que les vivants, les quatre vivants, rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père, à celui qui est pour les éternités d'éternité, les 24 vieillards. Les 24 vieillards symbolisent l'humanité. Tomberont devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit pour les éternités d'éternité. Ils jeteront leur couronne devant le trône. Grande vision contemplative des mystères de l'éternité. Le Père et les quatre vivants qui à la fois symbolisent les quatre évangiles. Et plus profondément, puisque les quatre évangiles témoignent du mystère de Jésus, plus profondément, ils signifient le mystère de Jésus. On n'a pas fait de traité du Christ selon cette grande vision de l'Apocalypse. C'est très dommage. Je ne compte pas le faire avec vous, mais je le dis quand même au point de départ. Parce que ce serait peut-être le grand traité du Christ qu'on devrait faire aujourd'hui, dans cette vision de l'Apocalypse. C'est du reste très beau. Mais aujourd'hui, on aime ce que c'est que le vivant. On aime de proclamer Jésus comme le vivant, celui qui est capable de capter toutes les ressources de vie qui sont en nous. Puisque c'est ça. Et on l'exprime de quatre manières, comme quatre grands projecteurs sur ce mystère qui nous échappe, qui nous dépasse. Alors, entrons un tout petit peu, momentanément, sur cette vision. Il est comme un lion. C'est la grande vision de saint Matthieu. Et ce serait une manière de regarder le traité du Christ, de regarder le mystère de Jésus. Voyez le début de l'évangile de saint Matthieu. Le début de l'évangile de saint Matthieu nous montre que Jésus est au terme de l'économie divine. L'économie divine, c'est le gouvernement de Dieu sur l'humanité. Et sur le peuple d'Israël. Donc, d'Abraham à Jésus. Et l'évangile de saint Matthieu nous montre que Jésus réalise toutes les grandes prophéties de l'Ancien Testament. Oui, d'Abraham. Comment Abraham nous révèle-t-il Jésus? Comment Isaac nous révèle-t-il Jésus? Comment Jacob nous révèle-t-il Jésus? Ce serait très beau de voir cela. Parce que c'est vrai, les grands patriarches, c'est quand même quelque chose de très beau. Il faut souvent relire ça. Ça nous aide beaucoup à comprendre ce qu'est la paternité. Parce que nous allons voir le leitmotiv de toute cette session, ce sera Jésus qui nous révèle la paternité. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est important d'avoir la clé. Eh bien, c'est très étonnant de voir que le point de départ de la révélation du mystère de Jésus, c'est de nous montrer la manière dont Dieu sanctifie le cœur d'un père. Puisque Jésus vient comme sauveur. Tout de suite. Immédiatement après la faute, il est promis un sauveur. Mystère du Christ comme sauveur qui est de fait annoncé à travers tous les prophètes. Ce sauveur, il est Père. Jésus, à la croix, nous sauve. Il nous sauve en nous donnant une vie nouvelle. Donner la vie, c'est le Père. Garder la vie, c'est la Mère. Jésus est Père, et on l'annonce en premier lieu à travers cette paternité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est assez étonnant, cela, de voir que c'est ce premier visage qui nous est donné. C'est vrai que si je contemple le cœur de Jésus, je vois qu'il est fils bien-aimé du Père, et qu'il est source de vie pour nous, et qu'il est Père. C'est bien Isaac. Isaac offert en sacrifice. Donc, l'évangile de saint Matthieu nous montre Jésus réalisant toute la grande annonce prophétique. Et tous les prophètes doivent nous aider à comprendre Jésus. Et je crois que là, il y a quelque chose de très important pour nous. Si on veut faire une théologie un peu sérieuse, il faut tout le temps venir à l'Écriture. Surtout aujourd'hui. Et de comprendre que tous les prophètes annonce le Christ. Chacun leur manière. Non seulement les prophètes, mais les patriarches. Tous ceux qui sont les saints de l'Ancien Testament. Ils annoncent le Christ. Ils annoncent le Christ sauveur. Moïse annonce le Christ sauveur. Après, les patriarches. C'est pour ça que c'est le lion de Juda. Jésus est le lion de Juda. Jésus est aussi comme le jeune taureau. Qu'est-ce que c'est que le jeune taureau? C'est la victime par excellence. Et je crois que là, c'est Marc, l'évangile de saint Marc. L'évangile de saint Marc nous donne sur Jésus un regard tout à fait différent que celui de Saint Matthieu. Saint Matthieu, je dirais que c'est une catéchèse. Hein. C'est vrai, c'est quand on veut essayer de faire entrer un peu dans le mystère du Christ, on commence par Saint Matthieu. Saint Dominique, comme prédicateur et comme enseignant, avait toujours sur lui l'évangile de Saint Matthieu et ne cessait de le relire. Marc nous fait entrer dans la spontanéité du Christ. Et ça, c'est vrai, que c'est la spontanéité du Christ, les flashs. On montre Jésus dans certaines circonstances particulières et la réaction qu'il a, le jeune taureau. Luc nous montre Jésus en tant qu'il est homme, le visage d'homme. Et le visage d'homme, on comprend très bien, Jésus, fils de la femme, Marie. Je ne peux pas comprendre le mystère de Jésus sans comprendre ce que Dieu a voulu. Au terme de la grande attente, il y a quelqu'un d'unique qui reprend tout à la base, bien au-delà d'Abraham, Marie, immaculée. Une nouvelle création, une nouvelle créature, Marie. C'est l'ultime préparation. Oui, c'est ça qui est très très beau. Et ce serait extrêmement intéressant à bien comprendre ces préparations diverses en vue du Christ. Parce que je ne peux pas vraiment pénétrer dans ce mystère si je ne vois pas la manière dont Dieu a préparé l'humanité pour recevoir Jésus. Il a choisi son peuple, d'Abraham à Jésus. Jésus est au-delà de son peuple. Quand on dit Jésus, un vrai juif, c'est vrai et ça sonne mal. Parce qu'il est fils de Dieu. Alors c'est vrai, c'est très vrai. Dieu a voulu préparer ce peuple pour Jésus. Mais c'est Jésus qui donne le sens au peuple d'Israël. C'est pas le peuple d'Israël qui donne à Jésus la compréhension. Vous voyez, faire attention aujourd'hui. On a de la peine à comprendre ça. C'est toujours ce qui est parfait qui donne le sens à l'imparfait, et non pas l'inverse. Or, Jésus reprend tout. Jeune taureau, j'aime beaucoup ça. C'est magnifique. Parce qu'on voit qu'il vient pour sauver en reprenant tout radicalement. C'est un symbolisme, c'est évident. Et alors, immédiatement après, fils de l'homme, Marie. Marie, fille de Sion. Marie est pleinement de son peuple, mais elle est au-dessus de son peuple. Elle est au-dessus. Elle est celle qui est la créature par excellence. Et elle est celle qui sera à la disposition ultime pour recevoir Jésus. C'est Marie. Jésus a voulu, plus exactement le Père a voulu, choisir dans son peuple une petite descendante de David pour qu'elle soit la mère. On comprendra pourquoi. Je signale ici, Saint Luc, ça nous montre ça. Saint Luc, c'est l'évangile des intellectuels. Et des intellectuels au très bon sens. Des gens intelligents. C'est l'évangile le plus intelligent, Saint Luc. C'est extraordinairement fin. C'est un artiste, Luc. Alors, on l'aime beaucoup aujourd'hui. Et on doit revenir beaucoup à Saint Luc, le visage d'homme. Vous voyez pourquoi on aime le linceul de Turin ? C'est parce que il nous donne l'image de l'homme de douleur. Et on ne peut pas se fatiguer de regarder le visage du Christ tel que, de fait, Parce que c'est celui qui pâtit. Dans une photo, vous ne pâtissez pas. C'est lui, au moment où il a pâti le plus, qui nous laisse sa marque. Ça, c'est étonnant. Ordinairement, on aime mieux de prendre un visage de quelqu'un en pleine euphorie, vous savez. Une jeune fille fiancée, le jour de son mariage, c'est merveilleux. C'est une fleur épanouie sur le lit de mort. D'autres choses. C'est extraordinaire de voir ça. Moi, je trouve que là, il y a une délicatesse de la Providence. De montrer celui qui porte l'iniquité du monde. Fils de l'homme. Fils de la femme, pleinement homme, et plus homme que tous les autres. Et pour être pleinement homme, c'est celui qui a porté toutes les douleurs de l'humanité. C'est pas par la joie qu'on est pleinement homme, c'est curieux. Aujourd'hui, on dit oui, parce qu'on regarde ça psychologiquement. Alors on dit c'est l'épanouissement. Ah, il y a des gens très épanouis, tu vois. En apparence très épanouis, qui sont très superficiels. Il n'y a rien. Il faut gratter un peu. Pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de prendre les abîmes du cœur de l'homme, les abîmes de son esprit, de son intelligence. Quatrième évangile, l'aigle, Saint Jean. L'aigle. C'est la contemplation. C'est l'amour. L'évangile de Jean, c'est la grande révélation de l'amour. C'est pour ça qu'il ne faut jamais séparer Luc et Jean. Parce qu'il ne faut jamais séparer l'intelligence et l'amour. Quand on commence à séparer l'intelligence et l'amour, ça ne va plus. Parce qu'on tombe alors dans l'intellectualisme. Et quand on ne voit que l'amour sans l'intelligence, ça ne va plus non plus. Parce que ce n'est plus ce grand élan contemplatif. L'aigle, le vol de l'aigle. Ces gens. Vous voyez, c'est quand même très beau de voir ça. De voir que ces quatre témoins ont donné pour nous le vivant. Et c'est l'Apocalypse qui nous donne la clé, qui nous donne le sens des quatre évangiles. Pourquoi ils sont quatre, hein? Jésus aurait pu faire son journal de route tous les soirs, une demi-heure de silence imposée aux apôtres. Je vais écrire tout ce qui s'est passé durant la journée. Il aurait signé, c'est intéressant d'avoir la signature du Christ, il aurait signé, et puis Pierre aurait contre-signé, et Jacques aurait contre-signé, et Jean aurait contre-signé. Alors, les historiens seraient pas bons. Et l'exégèse aurait beaucoup moins de choses à dire. Parce qu'on aurait le récit du Christ. Le récit de celui qui est vrai. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a rien écrit. On n'a même pas une planche rabotée par le Christ. Quand même, on aurait pu garder ça. Un petit strapontin, vous voyez, fait par Jésus. Jésus a 14 ans. Le premier objet qu'il a fait, ça. Quelque chose d'extraordinaire. Non, rien. Pas un seul écrit. Seul moment où il a écrit, vous savez bien, c'est un moment assez tragique. Hein. On demande à Jésus d'être juge. En face des pharisiens. En face de cette pauvre femme prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus refuse de donner un jugement public. Il faut qu'il réclame un jugement public, que celui qui s'empêchait s'en aille. C'est un passage très très important. Parce que là on voit l'intelligence du Christ d'une façon étonnante. Sa sagesse. C'est un jugement tout à fait pratique et important. Il s'agit de la vie. Et c'est ce qu'aurait voulu les Ariens. Et Jésus ne veut pas supprimer la loi, il ne la supprime pas. Mais il la dépasse. C'est lui qui est infiniment plus que la loi. Le vol d'aigle. On ne dit pas que Moïse est un aigle. C'est un très bon législateur. Mais les très bons législateurs ne sont pas des aigles. Hein. Au sens propre. Parce que ils doivent regarder le point de vue de la justice. La justice, c'est l'horizon. Entre le ciel et la terre. Les anciens parlaient des portes d'airain avant d'entrer dans le ciel. C'était la justice. La ticket, la justice. La loi représente la nouvelle justice de préparation. Et Jésus dépasse le vol de l'aigle. L'évangile de Jean, c'est ça. Vous voyez comme c'est beau. Jésus n'a pas voulu décrire sa vie. Pierre. À la Pentecôte, aurait pu, si le Saint-Esprit l'avait inspiré, dire, il est grand temps d'écrire la vie de Jésus. Alors on aurait, après la Pentecôte, un cénacle qui aurait duré un peu plus longtemps, un chapitre général qui aurait duré un mois, et Pierre aurait écrit, en demandant à ceux qui écrivaient mieux que lui, d'écrire la vie de Jésus, tout ce qu'ils avaient été témoins, et les douze auraient signé. Non. C'est très étonnant, ça. C'est très étonnant que, au-delà des évangiles, il y a la tradition. Jésus a enseigné. Oui, c'est pour ça qu'il n'est pas venu à l'âge des cassettes. Parce qu'il y aurait eu sûrement une sainte femme qui aurait eu sur elle toujours un appareil et qui aurait pris tout ce que Jésus disait de façon très indiscrète. Elle aurait tout pris, tout pris, tout pris. Elle aurait une montagne de cassettes. Non, non. Il est venu à un âge où on gardait dans son cœur. On savait ce que c'était que la tradition. La famille avait encore un poids. Toutes les traditions, c'est familial. Ça repose toujours sur un amour. Et la tradition est garder la parole de Jésus. Et puis un jour, l'Esprit Saint poussait Matthieu, Marc, Luc, d'écrire. Mais ce passage du visage du Christ gardé dans la mémoire des apôtres. Gardez dans le cœur des apôtres. Gardez dans le cœur de Marie. Marie n'a rien écrit. Rien du tout. Ça aurait été tellement merveilleux d'avoir toutes les années cachées du Christ. La première enfance. La nuit de Noël, écrite par Marie. Comme ça aurait été extraordinaire. Marie n'a rien écrit, elle a tout gardé dans son cœur. Et ça, Saint Luc le souligne deux fois. Elle garde dans son cœur ce qu'elle comprend, et elle garde dans son cœur ce qu'elle ne comprend pas. Elle est la bonne terre qui garde la parole de Dieu. Être la bonne terre qui garde la parole de Dieu, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que ça montre que la parole de Dieu est faite pour être reçue dans notre cœur, en premier lieu. Et non pas pour être écrite. Elle peut être écrite, mais c'est pas en premier lieu. En premier lieu, elle est faite pour être reçue dans notre cœur. Marie l'a reçue, la bonne terre. Et Marie a vécu du mystère de Jésus. Au-delà des apôtres, il y a le cœur de Marie. Et heureusement que parmi les évangélistes, il y en a un qui a aimé follement Marie. Jean. Qui a été donné à Marie. Pour être son fils bien-aimé. Alors l'évangile de Jean, vous comprenez bien. l'Esprit Saint, qui est l'auteur principal de toute l'Écriture et de l'Évangile de Saint Jean. Mais c'est Jean aussi qui a gardé tout dans son cœur et qui a surtout gardé la manière dont Marie regardait Jésus. Parce que pour lui, c'était bien plus important. La manière dont Marie gardait, avait gardé le visage de Jésus, avait gardé les paroles de Jésus. On aurait été à la place de Saint Jean, hein. On aurait tous fait ça, je crois. On aurait compris qu'on n'avait pas compris grand-chose à la vie apostolique de Jésus. Alors, si on a quelqu'un comme Marie qui a suivi Jésus dans toute sa vie apostolique, qui n'a jamais quitté Jésus dans toute sa vie cachée, on aurait gardé précieusement tous les détails. Je crois que l'évangile de Jean, vous voyez, l'évangile de l'aigle, c'est justement ce regard. Toute sa vie apostolique, qui n'a jamais quitté Jésus dans toute sa vie cachée, on aurait gardé précieusement tous les détails. Je crois que l'évangile de Jean, vous voyez, l'évangile de l'aigle, c'est justement ce regard si profond et si simple de Marie sur Jésus. Évidemment, c'est pas scientifique ce que je vous dis. C'est de l'ordre de la sagesse. C'est beaucoup mieux. C'est de l'ordre de la contemplation. C'est ce que les saints ont compris. Ils ont compris que au-delà de l'Écriture, il y a la tradition. Il y a le grand mystère de la tradition. Et la tradition chrétienne, elle commence pleinement, en plénitude avec Marie, qui garde la parole de Jésus, qui garde les gestes du Christ, qui garde sa présence. Voyez comment, au-delà de l'Écriture, il y a la vie de l'Église. Et c'est toujours à l'intérieur de la vie de l'Église que nous devons lire les Évangiles pour aller jusqu'au bout. Et il y a cette vie de l'Église qui nous est montrée à travers les écrits de Saint Paul. Les épîtres de Pierre, Jacques, Jean, et puis l'Apocalypse. Tout cela parle de Jésus, et Jésus est au cœur de tout cela. Mais voyons bien les témoins. Les évangiles, c'est l'évangile des témoins, selon ces quatre aspects différents. Et ensuite, il y a la vie de l'Église, les épîtres, et l'Apocalypse. Et l'Église, dans sa vie, garde la présence de Jésus. Jésus est présent dans son Église, d'une façon invisible, mais d'une façon réelle. Et l'Eucharistie est là comme signe. Donc, vous voyez ce fond nécessaire dès qu'on essaie de comprendre un tout petit peu le mystère du Christ. Entrer dans ce mystère. Après ce rappel nécessaire, je vais tout de suite maintenant entrer dans ce mystère en regardant le point de départ le plus immédiat, l'Annonciation. Tout le temps, reprendre l'Annonciation. Luc, chapitre 1. Verset 26. C'est quand même très important, ça. Comment Jésus est-il entré dans notre monde? C'est toujours le point de départ, vous savez bien. Le commencement. Comment est-il entré dans notre monde? Il est entré dans notre monde à travers le mystère d'Annonciation. regarde ici, on va regarder ce mystère ensemble, parce que je crois que c'est la première manière pour nous de pénétrer dans ce mystère. Et nous essaierons à partir de là de comprendre le plus que nous pouvons. Puisque la théologie ne supprime pas le mystère, mais elle met le mystère en pleine lumière pour voir là où on est en face d'une révélation qui nous dépasse complètement, qui chavire notre intelligence. Mais ça, c'est très important de comprendre que la révélation met toujours notre intelligence à l'épreuve. Ce que un philosophe a dit avec beaucoup de force, parce que il vivait de ce drame. Quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui a été catholique, qui n'a plus et a dit qu'il avait perdu la foi. Et il montre que pour lui, le mystère de l'incarnation, Dieu,
références vis-à-vis de quelqu'un qui est plus grand que vous. Alors, ça vous...
vous exalte. Ça vous ennoblit. L'ami du pape. C'est ça l'ennoblissement. C'est la relation. Je suis l'ami de tel savant. Mais tout de suite, la référence. Dieu qui se met en référence à Abraham. Abraham est très bien, mais quand même, c'est Abraham. C'est quand même pas toujours tout ce qui est Abraham n'est pas divin. Il avait la première référence était Sarah. Sarah, c'est aussi c'est pas très commode non plus. Abraham est lié à Sarah et Dieu se lie à Abraham et donc Dieu se lie à Sarah. Ça c'est étonnant ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus, il est le Fils de l'homme. Voyez, cette préparation à la signature du Christ, il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Marie. Il est le Fils de la femme. Lui qui est Dieu. Je comprends comment un Merleau-Ponty, ayant perdu la foi, n'étant plus que philosophe, ayant réfléchi sur le mystère de Dieu, dit, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est très vieux, du reste, cette réaction. Saint Thomas, Saint Jean d'Amasène n'hésite pas de la rappeler, parce qu'il y a quelque chose de tellement bouleversant dans le mystère d'incarnation. L'infini qui s'unit au fini. Le Créateur qui s'unit à la créature. Alors, regardons comment Saint Luc, qui a reçu ce témoignage de Marie, sans doute par Saint Jean, je crois bien, Marie a transmis à Jean ce mystère de l'Annonciation. Elle est seule témoin, personne d'autre. Et Saint Luc le transmet. Alors le petit détail que je trouve tellement beau, le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Le sixième mois, c'est en référence avec cette autre Annonciation. L'annonciation faite à Zacharie. Vous voyez, c'est ces petits détails de la révélation qui doivent nous bouleverser. Quand je regarde les deux annonciations, l'annonciation de Gabriel faite à Zacharie et l'annonciation de Gabriel faite à Marie, c'est quand même pas tout à fait du même ordre. Puisque l'annonciation faite à Marie, c'est pour le mystère d'incarnation. L'annonciation faite à Zacharie, c'est pour annoncer la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est très grand. Il est le dernier des grands prophètes. Il est celui qui indique, voici l'agneau de Dieu. Mais c'est quand même pas du même ordre. Eh bien, l'Écriture met en référence l'annonciation faite à Marie à celle de Zacharie. Un historien digne de ce nom ne ferait jamais ça. C'est l'événement majeur qui polarise tout le reste. Eh bien, ici, non. Alors pourquoi? Voyez, l'interrogation du théologien. On ne lit pas bêtement l'Écriture, on doit la lire avec intelligence. Alors on met son intelligence, pourquoi ça? Pourquoi la référence du mystère d'Annonciation est faite à Zacharie, est faite par rapport à l'Annonciation à Zacharie? C'est que justement, le point de vue du temps est très important, mais n'est pas primordial. Pour les choses humaines, la référence au temps est primordiale. Pour les choses divines, non. Le mystère de l'Annonciation faite à Marie est caché unique au monde, la révélation du mystère de l'incarnation faite à cette petite enfant des hommes, à Marie. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc il n'est pas en retard. Il n'a pas perdu son temps, il est envoyé par Dieu. La mission. Dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth. Alors tout porte. Nazareth, c'est dit dans l'Écriture. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Nazareth était une petite ville où l'aspect religieux n'était pas fameux du tout. C'était un lieu de passage où on sait que la foi était très abîmée. La foi du peuple juif à Nazareth. Il y avait un éclectisme relatif à tout. Bien, c'est à Nazareth. Là encore, vous voyez, pourquoi pas Bethléem, quoi? Ça aurait été facile de dire à Marie d'aller à Bethléem. Puis là, l'ange l'aurait rencontré. Ça aurait été bien plus noble. Bethléem, la ville de David. Nazareth, pas du tout la ville de David. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ça, c'est la réflexion d'un érudit. Un érudit, ça, voyez. Le temps et le lieu, tous les deux relativisés, complètement. Tous les deux cachés. Pour qu'on comprenne mieux le mystère des catacombes. Pour qu'on comprenne mieux le mystère de Dieu qui entre dans la vie humaine d'une manière si obscure. Sans faire un vacarme extraordinaire à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Marie est en référence à Joseph. Vous voyez les trois références, hein, c'est étonnant ça. Le mystère est tout à fait caché à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. C'est pas ça qui est important, puisque Dieu va sauter au-dessus des fiançailles. Il ne va pas les rompre, mais il va sauter au-dessus. Or, ici, on souligne à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Ah, c'est normal. Les généalogies se font par les hommes de ce temps. Et le nom de la vierge était Marie. Alors, on la nomme en dernier lieu. Alors, que c'est elle que Dieu regarde en premier lieu. Oui, comme pour nous faire entrer dans ce secret, la révélation à l'Annonciation, la révélation de ce grand mystère, c'est un secret. Les premiers chrétiens avaient très fort le sens du secret. Nous ne l'avons plus du tout. La vie chrétienne est un secret. Et tout repose sur un secret. Il y avait une apologétique mastéenne, persane. Un de mes amis, le père de Ménas, qui était très spécialisé là-dedans, un jour, il est venu me chercher, on était l'un à côté de l'autre, à Fribourg. Il me dit, regardez ce texte apologétique mastéenne du XVe siècle.